La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la basse marche que je vais consacrer à l'écureuil et au rouge-gorge. Pour les textes, nous avons fait appel au bulletin du 25e Festival de Bellac d'Alain Brissard, Serge Dunis et Guy Roche. À Charles Sylvestre, des extraits de Pleine Terre et de Animaux familiers et farouches. À Paul Lavergne, un extrait du Collier de Terre et de Escale sur la Terre. Et à Héloïse Mozzani, le livre des superstitions.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Un tout petit écureuil était né d'un soir de lune. Bruit de feuilles, bruit de pommes, entendez le vent d'automne.
Lors de l'exposition du 25e Festival National de Bellac consacré aux mammifères sauvages du Limousin, on pouvait découvrir un très beau dessin de Paul Lajoux représentant un écureuil et cette définition de ce petit mammifère. Cet animal gracieux, parure de nos forêts, n'a pas toujours été épargné au point qu'il devient de plus en plus rare. Son existence est liée à celle des arbres au niveau desquels il évolue avec une grande aisance, courte folle sur les troncs, haute voltige sur les branches, grâce à ses griffes acérées leur permettant de s'accrocher aux écorces et grâce à une belle queue en panache qui sert tout à la fois de parachute et de balancier. C'est sur les fourches des branches qu'ils construisent leur nid avec des brindilles, des feuilles et de la mousse. Ces derniers peuvent parfois se trouver dans un creux d'arbre, les fissures des rochers ou même les terriers de lapins. Il est très actif le jour, le matin surtout. Son régime alimentaire est varié. Il inclut les noisettes, les noix, les fennes, les glands, les pommes de pin, mais aussi les écorces, les bourgeons, les champignons, y compris ceux qui sont vénéneux pour l'homme, les œufs d'oiseaux. Ces animaux ont la curieuse habitude d'amasser des provisions dans des cachettes qu'ils oublient le plus souvent. Ils se délimitent un terroir d'un hectare qu'ils défendent activement contre les incursions étrangères. De longues parades amoureuses entrecoupées de poursuites précèdent l'accouplement. La gestation dure 40 jours et la femelle donne naissance à 3 à 6 petits nus et aveugles et ne pesant guère plus de 10 grammes. L'allaitement dure de 5 à 6 semaines. Les jeunes seront aptes à se reproduire à 1 an et la durée de vie moyenne d'un écureuil est d'une dizaine d'années.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Nous allons maintenant laisser la parole à Charles Sylvestre. C'est un extrait de son ouvrage « Au soleil des saisons ». Le promeneur qui s'avance dans la forêt après avoir laissé les ennuis du monde à sa lisière a vu s'élancer de la tête d'un grand arbre une bête fantastique et vive qui s'enflamme au moindre rayon de soleil et disparaît comme un esprit de plein jour. Le fauve écureuil ne trouble pas le silence ni la solitude et semble danser pour son plaisir de branche en branche. Le bois tout entier lui fait une immense cage et ne l'empêche pas d'être libre. L'échine, couleur de flamme, le ventre blanc, la longue queue en parasol aussi belle qu'un plumage, relevée au-dessus de sa figure fine et curieuse, il mène sa vie, cherche provende sous le couvert des rameaux, il a de bons doigts et de bonnes dents. Il se meut dans la puissante odeur des écorces, des racines et des feuilles. Il bâtit à la fourche d'une haute branche un nid formé de brindilles et de mousses entrelacées. Il perce une petite fenêtre munie d'un couvercle qui le gardera du froid et des pluies.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
On dit que l'on fait des pinceaux avec les poils de sa queue. Un peintre qui saurait s'en servir serait impardonnable d'être gauche et sans aucun charme. Si gracieux, toute ardeur et nerfs, il montre une étonnante prévoyance, une sorte d'avarice ou tout au moins d'économie. Il connaît la peur de manquer, amasse une énorme provision de noix, de châtaignes, de champignons et son âpreté redouble aux approches de l'automne. Il creuse une cachette pour chaque objet dont le sol à l'abri des pierres moussues. Il en place d'autres, baies et fruits, à la cime de certains arbres choisis. Il est extrêmement ingénieux quand il s'agit de préserver ses richesses. Il peut porter des choses très lourdes s'il décide qu'elles en valent la peine. En plein hiver, en agitant les branches d'un arbre qu'il fréquente, on entendra tomber sur les feuilles sèches des fruits qu'il avait suspendus. Il sait où retrouver ses trésors, ses nourritures qu'il mange, assis, en les portant à sa gueule comme à deux mains. S'il est avide et gourmand, accapareur, il est toujours propre et luisant. Il ne marche pas sur le sol et continue d'y voltiger comme à la pointe des ramilles. On raconte qu'il peut être cruel et piller le nid du rouge-gorge. On ne veut pas croire à cela, ce serait bien triste. C'est assez de voir en lui un furieux thésauriseur qui nous apparaît tout d'abord à la façon d'un petit feu céleste allumé au sommet d'un arbre.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons rester avec Charles Sylvestre qui, toujours dans le même ouvrage, Au soleil des saisons, nous relate la chasse à l'écureuil. Un soir du dernier automne, un ancien compagnon m'a dit « Souvenez-vous des chasses à l'écureuil qui ravissaient ma brutale enfance. » Au jour de congé, nous allions en bande courir les champs et les bois. La chasse à l'écureuil avait un attrait très fort. Un compagnon entrait le premier dans le bois qui nous enivrait d'une odeur virulente comme de l'ail écrasé. Il cherchait le nid du rongeur, haut perché comme celui de la pie. L'ayant découvert, il frappait le tronc de l'arbre à coups de gourdin et peu après, l'animal épouvanté s'enfuyait de rameaux en rameaux. Alors, nous le suivions en courant tandis qu'il sautait d'une branche à l'autre et nous ne cessions de jeter tous ensemble des cris redoublés par un battement de main sur la bouche. Nous le poursuivions longtemps ainsi afin de l'affoler et de l'étourdir toujours davantage. Les plus hardis apprêtaient leurs bâtons, attendant la chute. Là-haut, les voltes et les cabrioles devenaient plus lentes. L'écureuil perdait de son feu, semblait s'éteindre, pareil à quelque ombre voletante, cherchait à gagner les arbres de la lisière afin de s'abattre et de fuir à travers champs la vertigineuse clameur. Il nous échappait rarement. L'un de nous, célèbre par sa brutalité, assommait d'un coup la pauvre bête qui se laissait tomber tout d'une pièce et pantelante comme un oiseau frappé à mort. Le soir même, on faisait cuire ce gibier un peu coriace. Chacun de nous en mangeait une bribe, feignait de trouver cela délicieux. Mais le plus fin de la compagnie demandait la queue en parasol et s'en faisait un porte-plume pour écrire des choses légères. À l'exemple de l'écureuil, il avait toujours dans son pupitre des provisions, quelques noix, une poignée de châtaignes, des bouts de sucre, des pastilles de réglisse, maintes friandises qu'il aimait à grignoter.
petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans le récit de Charles Sylvestre, le chasseur tue à coups de gourdin. Mais sachez que la tradition affirmait que tirer un écureuil au fusil portait malheur et que, de toute façon, le chasseur y perdait toute son adresse. Sachez encore que l'écureuil est de très mauvais augure, en particulier si depuis un arbre il saute au pied d'une personne. Ou bien encore, lorsqu'un écureuil traverse la route alors que vous êtes en voyage, il vous faut immédiatement rentrer chez vous, sinon un malheur surviendra. Pourtant, avoir un écureuil domestique chez soi attire la bonne fortune. Les Tziganes, eux aussi, croyaient que l'écureuil portait bonheur. Ils établissaient volontiers leur campement au pied d'un arbre sur lequel l'animal vient grimper, et si ce dernier court sur le chemin, ils suivaient la même direction. L'écureuil apparaît aujourd'hui comme un animal sympathique, symbole de l'économie à tel point qu'une banque française l'a adopté comme logo. Ce ne fut pas le cas pendant toute l'histoire. En effet, autrefois en Europe, les écureuils étaient considérés avec une grande méfiance. Les mythes germaniques relatent l'existence d'un écureuil appelé « dent de rat » qui ne cessait de monter et de descendre sur le tronc des frênes. Il s'amusait à semer la discorde entre l'aigle installé sur sa cime et le serpent resté en bas à en dévorer les racines, en racontant à chacun ce que l'autre avait dit de lui. Voilà qui ressemble fort au comportement de Mercure, le messager des dieux. L'écureuil fut aussi identifié avec le dieu germanique Loki, cet animal roux qui fuit sans cesse à toute vitesse et qui ne se laisse jamais attraper. Il fut considéré à l'époque chrétienne comme une véritable incarnation du diable. Chez les Indiens d'Amérique, avoir la force de l'écureuil se dit de l'homme toujours en mouvement. Dans le langage des rêves, rêver d'un écureuil est une invitation à se préparer à un grand changement. Dans le langage de l'héraldique, un écureuil d'azur symbolise la foi dans le commerce et un écureuil de sable représente la justice qui corrige les vices. Signalons qu'en parler de la basse marche, l'écureuil est le chatacuro ou le chatacuraou. Terminé sur l'écureuil, cette petite légende qui explique pourquoi l'écureuil a une aussi grande queue touffue. À l'origine, l'écureuil portait sur son arrière-train une queue petite et fine. Il fut si choqué du spectacle d'Adam et Ève se partageant le fruit défendu qu'il chercha en vain à se voiler la face avec cet attribut. C'est alors qu'il fut doté d'une plus grande queue, expliquée également comme un don de Dieu pour qu'il puisse s'en servir comme parapluie.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons laisser l'écureuil pour nous intéresser au rouge-gorge qu'Olivier Messiaen vient de nous présenter en musique. Nous allons le faire avec deux petits textes de Charles Sylvestre, extraits de Pleine Terre et de Animaux familiers et farouches. Il neige, le rouge-gorge volait autour des maisons paysannes, il sautille et cherche des miettes, il devine la chaleur d'un feu de branche. Rarement, il frappe du bec à la vitre. Il mène sa petite danse de détresse sans un cri. Il y a dans le vent glacé l'épouvante des oiseaux. Pinsons et mésanges frissonnent dans la campagne endormie. L'autre jour, un peu de neige en appelait davantage. Les arbres, les buissons étaient blancs du côté où le vent avait soufflé, et noir de l'autre. Une secrète blancheur serpentait au long des branches dépouillées, des noires et blanches à l'image de la pie. Il y avait de l'hermine au seuil des portes, au bord des toits, et même dans l'auge des ports. Suivant la lisière d'une futaie, le rouge-gorge cherchait les dernières graines, sautillait dans la solitude morne, toujours transi malgré son jabot couleur de feu. Nous allons écouter un court texte de Paul Lavergne extrait de son roman « Le collier de terre ». Gamy regardait à travers la vitre deux petits rouges-gorges posés sur le rebord de la fenêtre. L'un disait « Piou, piou, piou » avec un vif mouvement de gorge. L'autre bougeait la tête et répondait « Trip, trip, trip ». C'est le mâle et la femelle, pensait Gamy. C'est un beau jour de l'an pour eux. La terre n'est pas couverte de neige. Ils regardent le feu des hommes par la fenêtre et tout à l'heure, ils mangeront sur le seuil les miettes que je vais balayer.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le rouge-gorge est aujourd'hui un oiseau bien sympathique et pourtant pendant longtemps, dans bien des régions, il fut un messager des mauvaises nouvelles. On l'appelait parfois le mauvais œil, car c'était la mort d'un malade qu'il annonçait en pénétrant chez lui ou en frappant contre la vitre de sa chambre. Ou c'était celle d'un bébé s'il se juchait sur le toit de la maison et chantait. Il est bon de faire un vœu lorsqu'on aperçoit le premier rouge-gorge de l'année. Mais, attention, il faut formuler le vœu avant que l'oiseau ne s'envole, sinon toute l'année sera malchanceuse. Le rouge-gorge, de par sa nature peu farouche et son plumage attractif, est très populaire, y compris chez les jardiniers. Pourtant, le rouge-gorge est une espèce d'oiseau très agressive et certains mâles se battent parfois à mort pour défendre leur territoire. Présent dans presque chaque jardin, c'est l'un des oiseaux les moins sauvages, cherchant sa nourriture à proximité des humains. Si l'hiver est rude, il devient encore plus familier car le manque de nourriture provoqué par la neige et la glace le rend très vulnérable. À la belle saison, il habite les bois et les forêts ou dans les haies de bocage, les boquetaux. Le rouge-gorge fait son nid dans les trous des arbres et les murs, mais également dans les jardins et les haies, parmi les plantes grimpantes, souvent à proximité d'une touffe herbeuse ou d'un arbuste. De nombreuses légendes sont attachées au rouge-gorge. Voici sans doute la plus connue. Il y a fort longtemps, ce n'était qu'un modeste oiseau au plumage brunâtre. Alors qu'il voletait, il s'approcha du Christ crucifié sur sa croix. Il se posa sur son épaule, de ses ailes il essuya ses larmes et de son bec, il arracha les épines qui lui blessaient la tête. Une goutte de sang tomba sur sa gorge, colorant à jamais son humble plumage. Je suis certain que vous avez tous en mémoire ces petites cartes à paillettes d'or ou d'argent que l'on envoyait pour le premier de l'an. Et que voyait-on sur ces cartes de vœux ? Un paysage de neige et au premier plan, une branche de houx et un beau rouge-gorge au ventre rouge. Voici donc une autre adaptation de la légende du rouge-gorge. Un petit oiseau gris cherchait un arbre pour s'abriter du froid et du vent d'hiver. Mais de tous les arbres caducs, seul le houx lui offrit son hospitalité. Tout heureux, il prit possession sous son feuillage. Il se blessa avec les feuilles piquantes, le sang jaillit sur son plumage gris et colora son poitrail en rouge orangé, créant ainsi le petit rouge-gorge. Le petit rouge-gorge, sous la branche de houx dans ce paysage de neige, sur cette carte à paillettes d'or et d'argent, c'était pour nous souhaiter une bonne et heureuse année. Nous allons pour un instant nous transporter au Canada, au Québec, et cela le 1er janvier avec cette chanson, c'est dans le temps du jour de l'an.
J'ai des bonnes tortues.
petites et grandes histoires de la basse marche.
Puisque nous sommes dans le temps du jour de l'an, nous allons nous aussi vous présenter nos meilleurs vœux. L'équipe de RMJ, l'équipe des petites et grandes histoires de la basse marche, Christophe Gourcerolles et moi, nous vous souhaitons une très très bonne année 2018, santé, bonheur, réussite et bien sûr de très bonnes émissions sur RMJ. Voici comment Paul Lavergne nous annonce la nouvelle année dans Escale sur la Terre. Voici le jour de l'an, le gui et les pralines, les étrennes qui font le bonheur des enfants. Voici les rois qui portent la galette, la chandeleur et les crêpes au louis d'or. Voici le carnaval et sa barbe postiche, les giboulées qui fument le sol. Voici Pâques, au clocher crépitant d'étincelles et les cloches sonnant aux quatre vents du ciel. Voici les lilas blancs, voici les hirondelles et les couples d'oiseaux qui façonnent leur nid. Voici la Pentecôte entourée de chandelles que les orchis allument en herbe des prairies. Voici le long été aux travaux difficiles, les foins coupés, l'orgueilleuse moisson, le dépôt abondant des vergers de septembre et nos corbeilles odorantes. Et voici comme un faune échevelé, dansant dans les bosquets novembre, ensorcelé au tambour de l'automne. Cependant que décembre, de brume emmitouflée, prépare ses lampions pour la nativité.
Salut à la compagnie de cette maison. Je vous souhaite une bonne année, du bien à foison. Nous sommes d'un pays étrange venu dans ce lieu pour vous faire la demande de la part à Dieu.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai consacrée à l'écureuil et au rouge-gorge. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie d'Alain Brissard, de Serge Dunis, de Guy Roche, de Charles Sylvestre, de Paul Lavergne, de Georges Deschérat et d'Héloïse Mozzani. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait la haie Luc Arbogast, Chantal Isabelle. Aux musiciens et compositeurs Claude Gagnon, Olivier Messiaen, Johann Strauss, au groupe Maluzerne et Malicorne que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Salut à la compagnie de cette maison. Je vous souhaite une bonne année, du bien à foison. Nous sommes d'un pays étrange venu dans ce lieu pour vous faire la demande de la part à Dieu. Si la fève s'y présente, nous la planterons dans un jardin sous un arbre, nous la mettrons. Nous prierons la Sainte Vierge, Jésus les trois rois, qu'il nous fasse à tous la grâce que la puissions voir.